Europe 1, le 22-22-30.
Julien Pierce.
Bonsoir et bienvenue dans le journal de la nuit. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h30. Il est 22h, vous êtes sur Europe 1. 24 000 nouvelles contaminations en 24 heures, des admissions en réanimation qui augmentent. Le gouvernement devrait demain serrer la vis. A priori, les écoles vont rester ouvertes, mais le protocole sanitaire pourrait être corrigé. En seulement quelques jours, le taux de positivité des moins de 10 ans a triplé. Au menu également, l'instauration probable d'un couvre-feu dès 18 heures pour l'ensemble du pays. Les commerçants craignent jusqu'à 30% de chiffre d'affaires en moins. 247 000 Français d'ores et déjà vaccinés. Objectif 1 million d'ici la fin du mois. Pour y arriver, on pique désormais dans les cliniques privées. Bip bip, vous êtes trop proche. Un groupe suédois demande à ses 2500 salariés en France de porter un collier qui sonne si la distanciation physique n'est pas respectée. Donald Trump va devenir le premier président américain visé à deux reprises par une procédure de destitution. La Chambre des représentants est en train de voter sa mise en accusation. Dans ce journal également, le ministre des Outre-mer visé par une enquête pour prise illégale d'intérêt. Un suprémaciste noir qui fait exploser accidentellement son appartement dans le Val d'Oise. La police le soupçonne d'avoir voulu fabriquer des explosifs. Et puis le foot, trophée des champions. Le PSG affronte en ce moment l'OM, Julien Froment.
Ouais, c'est la pause 1-0 pour Paris face à l'OM. But d'Icardi à la 39e minute de jeu.
La météo, prudence. 9 départements sont ce soir en vigilance orange, neige, verglas, principalement dans le nord-est du pays. Ailleurs, de la pluie demain pour tout le monde, sauf dans le sud, nous dira Anissa Haddadi. La bourse de Paris, elle a clôturé ce soir en hausse, plus 0,21% à 5662 points. Tous les détails à venir avec Didier Hameau de Boursier.com. L'interview écho dans 20 minutes. Carrefour pourrait être racheté par un groupe canadien spécialisé dans les supérettes et les stations-service. Pour en parler, Emmanuel Duteil reçoit ce soir Olivier Dauvert, spécialiste de la grande distribution. Enfin, on découvrira ensemble les unes de vos journaux de demain.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Nous sommes donc une nouvelle fois suspendus aux annonces du gouvernement. La mécanique est rodée. Conseil de défense ce matin, prise de parole de l'exécutif demain soir. Un reconfinement paraît écarté à ce stade, mais la généralisation à l'ensemble du pays du couvre-feu dès 18h semble tenir la corde. Objectif, contenir les contaminations au Covid et surtout la diffusion du très virulent variant anglais. Reste la question des écoles. Elles devraient rester ouvertes, mais une donnée inquiète le gouvernement, le taux de positivité des jeunes enfants, Anne Le Gall.
Oui, effectivement, ce qui intrigue en ce moment, c'est la hausse du nombre de cas positifs chez les moins de 10 ans. Il a triplé dernièrement. A priori, pas de lien direct avec la rentrée des classes, puisque les contaminations correspondent à la période des vacances. Mais le variant britannique, qui est 50% plus contagieux, circule particulièrement bien chez les enfants. Face à ce variant, il y aura donc des mesures à prendre, estime le président du conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, qui recommande cependant de laisser les écoles ouvertes. Mais il faut, selon lui, des mesures de surveillance beaucoup plus strictes, avec d'abord des tests réguliers. 1 million de tests antigéniques sont prêts à être utilisés dans les établissements scolaires, avec peut-être aussi une organisation différente pour limiter le risque de contamination entre élèves. Certains observateurs avancent des pistes très pragmatiques. Attribuer une salle de classe fixe, par exemple, pour que les élèves ne se croisent pas dans les couloirs. Proposer des cours par demi-groupe, comme dans 70% des lycées. Étaler les horaires de cantine ou prévoir un pique-nique en classe, comme cela se fait à l'étranger. En revanche, l'allongement des vacances de février suggéré par certains médecins ne semble pas à l'ordre du jour actuellement.
Merci Anne Le Gall du service Société d'Europe 1. De nombreux élus ont ces derniers jours critiqué le couvre-feu à 18h et remis en question son efficacité. La mesure serait même selon eux contre-productive en provoquant des pics de fréquentation dans les transports et les grandes surfaces. Faux, a répondu en substance Gabriel Attal. Pour le porte-parole du gouvernement, le couvre-feu avancé a permis une circulation moins importante du virus dans les départements déjà concernés. Ce qui est certain, en revanche, c'est que l'hypothèse d'une généralisation du couvre-feu dès 18h inquiète beaucoup les commerçants. Carole Ferry, ils ont commencé à faire les calculs et les résultats ne les rassurent pas.
C'est le moins qu'on puisse dire. Oui, vous avez déjà la grande distribution et pour cause, hein, le créneau 17h-30-20h, c'est un tiers des courses alimentaires. Alors on ne va pas non plus se laisser mourir de faim. Il y aura forcément un phénomène de report, notamment le week-end. Et d'ailleurs, la grande distribution appelle à l'ouverture généralisée des magasins le dimanche pour désengorger les rayons le samedi. Un phénomène de report plus plus compliqué dans d'autres secteurs, comme l'habillement, par exemple. Selon Damien Deforest, directeur général de la chaîne CEA, la perte de chiffre d'affaires dépendra du scénario choisi.
Par rapport aux magasins qui sont déjà dans l'obligation de fermer à 18h, nous avons déjà une perte de chiffre d'affaires de l'ordre de 15 à 20%. Si cette décision venait à être étendue sur l'ensemble du territoire français, sur les grandes métropoles, on partirait plutôt sur de l'ordre de moins 25 à moins 30% de chiffre d'affaires. Un confinement le week-end nous entraînerait obligatoirement une perte de chiffre supplémentaire et on peut tabler sur l'ordre de moins 40%.
Même crainte du côté des fleuristes selon Franck Poncet, président du directoire de Monceau Fleurs.
On redoute ce couvre-feu. Souvent, les fleurs s'achètent aussi à la dernière minute, quand on sort du travail, par exemple, ou quand on sort du métro. Et donc, plus on réduit l'amplitude horaire de nos commerces et qu'on réduit le nombre d'occasions d'achat, ça a effectivement un impact. Et on ne le récupère pas. Hein.
Les buralistes aussi misent sur un manque à gagner, notamment sur les jeux de tirage ou de grattage. Manque à gagner, au final, pour les caisses de l'État.
Merci Carole Ferry. Les plus de 75 ans hors EHPAD pourront se faire vacciner à partir de lundi dans toute la France. Les réservations seront ouvertes demain sur Internet et par téléphone. En attendant, la campagne de vaccination s'amplifie dans le milieu médical. Même les cliniques privées s'y mettent, comme a pu le constater Lionel Gougelot à Lille, où l'hôpital privé du Bois accueille les professionnels de santé de plus de 50 ans qui souhaitent recevoir une injection.
Je viens d'être vaccinée, tout va bien, je vais m'en aller parce que j'ai aucune réaction, pas de douleur, rien du tout.
Médecins de ville, infirmières libérales, kinés ou dentistes, ils étaient déjà nombreux aux premières heures de la matinée pour se faire vacciner. Un engouement qui bluffe le docteur Clairvoûte, retraité venu renforcer les équipes de vaccination.
Ça m'impressionne de voir tous ces gens qui viennent et qui saturent les standards téléphoniques pour la réservation. Et le fait que les médecins foncent, enfin les médecins ou les professionnels de santé, parce qu'il n'y a pas que des médecins ici, je pense que cet exemple est important.
260 professionnels de santé vaccinés en une journée, un dispositif bien rodé, assure Laurent Delmer, le directeur de la clinique du Bois.
Ça prend 10 minutes, donc ça va très vite. On met des rendez-vous tous les 5 minutes et il y a une dizaine de personnes qui reçoivent pour qu'on puisse aller le plus vite possible. On s'aperçoit que ce matin, par exemple, à 6h30, on avait déjà plus d'une trentaine de personnes qui allaient avant d'aller travailler.
Si je pouvais avoir un petit badge ou un petit pins pour dire je suis vacciné, je le porterais très volontiers.
Marie-Agnès Dreck, chirurgien-dentiste, ressort enthousiaste du cabinet de vaccination, se félicitant par ailleurs de la mobilisation des hôpitaux privés dans la campagne.
On est quand même dans une course contre la montre, enfin je trouve. Hein. Donc plus on aura d'acteurs dans la mobilisation, dans la vaccination, plus on le fera savoir et mieux on se portera tous. En fait, je veux dire, faut vraiment qu'il y ait un élan collectif autour de cette démarche-là.
Une campagne qui va se dérouler ici jusqu'à la fin du mois, avec dès lundi prochain la vaccination des personnes âgées de plus de 75 ans. Lille, Lionel Gougelot, Europe 1.
Et on rappelle que l'objectif du gouvernement, c'est 400 000 Français vaccinés d'ici la fin de la semaine. On en est ce soir à 247 000. C'est 10 fois moins qu'au Royaume-Uni, où 1564 décès ont été enregistrés en 24 heures. Nouveau record, voilà pourquoi Boris Johnson veut encore accélérer le rythme des injections. Le Premier ministre britannique annonce qu'il va mettre en place dès que possible une vaccination 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Si le vaccin est l'une des armes pour mettre fin à cette pandémie, la distanciation sociale reste plus que jamais d'actualité. On connaît tous la règle des 1 mètre, encore faut-il l'appliquer. Et bien pour s'en assurer, le groupe suédois Essity compte équiper ses 2500 salariés en France d'un boîtier qui sonne en cas de rapprochement physique trop important. Initiative choquante pour Christine Duguay, elle est déléguée syndicale CFDT chez Essity.
Personne n'en veut de ce boîtier. C'est une atteinte aux libertés individuelles. Vous imaginez, vous vous promenez avec un badge là-haut, avec une dragonne autour du cou, et dès que vous êtes à moins de 2 mètres d'un salarié, ça vibre et il y a une alarme qui se déclenche. C'est complètement infantilisant, quoi. La commande est déjà passée. On sait que le système, les boîtiers sont déjà commandés et ils nous disent qu'aujourd'hui, ils vont discuter avec nous. Donc, on voit bien qu'il n'y a pas de dialogue social. Ils ont clairement décidé de le mettre en place, sauf qu'on n'est pas d'accord.
Propos recueillis par Jean-Gabriel Bourgeois. De son côté, la direction d'Essity tente de rassurer. Elle assure que ce dispositif ne comporte pas de système de géolocalisation. Notez que la ministre du Travail, Elisabeth Borne, sera demain matin l'invitée de la matinale d'Europe 1. Elle répondra à partir de 8h15 aux questions de Sonia Mabrouk. Et puis, on l'apprend à l'instant, la députée et ancienne ministre Marielle de Sarnez est décédée. C'est François Bayrou qui l'indique à l'AFP. On ignore pour l'heure les circonstances du décès de Marielle de Sarnez. On y reviendra bien évidemment dans nos prochaines éditions.
Europe Soir, le 22-22-30, Julien Pierce.
Un événement ce soir aux États-Unis, un événement historique. Une semaine tout juste après l'assaut contre le Capitole, la Chambre des représentants est en train de voter l'impeachment de Donald Trump. Alexis Guilleux, vous êtes notre correspondant sur place. Donald Trump va donc devenir le premier président américain à être visé deux fois par une procédure de destitution.
Oui, et c'est dire le moment historique que vit le pays. Les débats qui ont lieu depuis quelques heures symbolisent les fractures des États-Unis dans un Capitole protégé par des centaines de membres de la garde nationale. La grande majorité des républicains reste fidèle au président. Ils dénoncent le double jeu des démocrates qui aurait provoqué la colère et le ressentiment. Il y a quand même quelques lignes qui bougent. Le leader des républicains à la Chambre, Kevin McCarthy, a expliqué que Donald Trump avait sa part de responsabilité dans l'attaque de la semaine dernière, mais qu'une destitution serait, selon ses mots, une grave erreur qui ne ferait qu'attiser les flammes de la division. Au total, 6 élus républicains ont annoncé qu'ils voteraient l'impeachment. Côté démocrate, c'est l'unanimité contre le président. Il doit partir, c'est un danger évident et immédiat pour la nation, d'après Nancy Pelosi, la leader de la Chambre qui a entamé les débats. Personne n'est au-dessus de la loi, il doit rendre des comptes et ne jamais pouvoir se représenter. Ont ajouté des élus avec beaucoup d'émotion dans la voix. Ils étaient sur place la semaine dernière, dans le Congrès, au moment de l'attaque. L'impeachment va être voté par la Chambre des représentants parce que les démocrates y sont majoritaires. Mais attention, on le répète, cette procédure se joue en deux temps. La seconde étape, c'est un procès au Sénat. Et on sait qu'il ne pourra pas se tenir avant le 20 janvier. L'objectif sera donc là de disqualifier Donald Trump pour un futur mandat.
Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis, où Google annonce ce soir suspendre les publicités politiques en raison des risques de violence pendant l'investiture de Joe Biden mercredi prochain. Retour en France, où deux de nos ministres sont visés par des enquêtes. Le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, fait l'objet d'une information judiciaire pour des soupçons de prise illégale d'intérêts. C'était annoncé et attendu. Ce qui est inattendu, en revanche, c'est cette enquête préliminaire qui vise le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu. Il est soupçonné, Marion Dubreuil, de s'être servi de son poste de président du conseil départemental de l'Eure pour favoriser les intérêts d'une société d'autoroute.
Oui, les faits remontent à juillet 2016. Sébastien Lecornu est à la tête du département de l'Eure, mais au même moment, l'élu Les Républicains siège au conseil d'administration de la Société des autoroutes Paris-Normandie. Il cumule les deux postes pendant près d'un an, comme en attestent ses déclarations de revenus à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Or, d'après Libération et Le Canard enchaîné, Sébastien Lecornu a approuvé plusieurs délibérations de la collectivité en faveur de la Société des autoroutes, dont la rétrocession d'un terrain de 4000 m² ou bien encore l'aménagement d'un échangeur ou d'un parking, d'où les soupçons de conflit d'intérêts. Le cabinet du ministre explique que si Sébastien Lecornu est resté un an au conseil d'administration de la société d'autoroute, c'est pour faire, je cite, « entendre la voix des territoires en toute transparence ». D'après Libération, c'est un courrier qui est à l'origine de l'enquête début 2019. Il est directement adressé à Éliane Houlette, qui dirige alors le parquet national financier. Une lettre signée par un ex-banquier des collectivités locales qui se défend de toute vendetta contre l'actuel ministre des Outre-mer.
Marion Dubreuil, nouvelle démission suite à l'affaire d'Olivier Duhamel. Elisabeth Guigou renonce à présider la commission indépendante sur l'inceste après avoir été citée parmi les proches du constitutionnaliste accusé de viol incestueux par sa belle-fille. Le climat actuel ne me permet pas de conduire cette mission avec la sérénité nécessaire, déclare l'ancienne garde des Sceaux. Elle reconnaît avoir ignoré pendant toutes ces années les faits gravissimes dénoncés dans le livre de Camille Kouchner. À Saint-Leu-la-Forêt, dans le Val-d'Oise, les pompiers sont intervenus ce matin suite à l'explosion d'un appartement qui a déclenché un incendie et l'évacuation des habitants de la résidence. Une explosion involontaire déclenchée par son occupant, un homme connu pour être un suprémaciste noir qui aurait manipulé des substances chimiques, Gladys Lafitte.
Oui, effectivement, divers ingrédients chimiques qui laissent à penser que le locataire de l'appartement cherchait à confectionner un ou des engins explosifs. Et c'est l'hypothèse principale des enquêteurs parce que cet homme de 36 ans est bien connu des services de police et notamment du renseignement territorial. C'est un suprémaciste noir qui milite pour la constitution d'une nation noire. L'homme a été gravement blessé aux mains. Sa compagne se trouvait elle aussi dans l'appartement au moment de l'explosion ce matin. Elle est actuellement en garde à vue. Tous les deux vont devoir expliquer aux policiers pourquoi ils avaient ces produits chimiques chez eux, produits qui vont bien sûr être analysés, et surtout ce qu'ils comptaient en faire s'ils avaient un projet précis. Pour le moment, le parquet national antiterroriste ne s'est pas saisi de l'affaire et la trentaine d'habitants de la résidence a pu regagner leur logement dans la journée.
Gladys Lafitte du service police-justice d'Europe 1. On passe au foot avec un match pas comme les autres. Le Paris Saint-Germain affronte en ce moment l'Olympique de Marseille. C'est le trophée des champions qui, cette année, se joue à Lens, au stade Bollard. l'art. On vous retrouve, Julien Froment.
Oui, la 55e minute de jeu tout pile. Et donc l'Olympique de Marseille qui est mené 1-0 par le Paris Saint-Germain. But signé Mauro Icardi à la 39e minute de jeu. Et Mauro Icardi pas loin du doublé juste avant la pause. Une énorme frappe qui est allée s'écraser sur la barre transversale de Steve Mandanda. Une rencontre qui est globalement dominée par les joueurs du Paris Saint-Germain. Ça manque un peu d'ambition offensive du côté de l'OM. L'OM qui est privé en plus de Mandanda pour la seconde période. Il a laissé sa place à Johan Pelé alors qu'il y a eu là deux changements à l'instant du côté de l'OM avec les entrées de Sanson et Benedetto, peut-être pour apporter un petit peu plus d'allant justement devant le but de Keylor Navas. 1-0 donc pour le Paris Saint-Germain face à l'OM dans ce trophée des champions.
Merci Julien Froment, Julien que l'on retrouvera dans quelques minutes pour vivre la fin de cette rencontre. La météo, prudence si vous habitez le nord-est, 8 départements supplémentaires rejoignent la Haute-Savoie en vigilance orange, neige, verglas. Il s'agit des Ardennes, de la Meuse, de la Meurthe-et-Moselle, de la Moselle, des Vosges, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et du territoire de Belfort. Dans le reste du pays, Anissa Haddadi, ce sera une nouvelle journée pluvieuse.
Oui, et c'est à cause d'une perturbation, Julien, qui apporte de la Normandie jusqu'à la Bourgogne, en passant par le bassin parisien, de la pluie dès le début de la journée. Des pluies parfois soutenues, soyez prudents. Et puis du nord à l'Alsace, le long des frontières de la Belgique et du Luxembourg, il neige en pleine. Sur le quart sud-ouest, l'ambiance est humide avec des averses. Et puis au bord de la Méditerranée, on a fait les quatre coins de France, au bord de la Méditerranée, le soleil domine demain. Dans l'après-midi, le temps est pluvieux pour tout le monde, sauf du Languedoc à la Côte d'Azur et en Corse. Là, le soleil brille, mais attention, le vent souffle toujours et notamment dans le Var avec des rafales à plus de 100 km/h. Attention aussi au risque d'avalanche dans les Alpes. Les températures, elles sont stationnaires avec 4 à 8 degrés le matin sur l'ensemble du pays. Il fera plus frais sur les zones enneigées, 0 à Charleville-Mézières, 1 degré pour Lille et Strasbourg, 2 à Dunkerque et au meilleur de la journée, comptez 2 à 16 degrés, 2 à 7 dans le nord-est et 9 à 16 degrés partout ailleurs.
Merci beaucoup Anissa Haddadi. Europe 1. Restez avec nous dans un instant, toutes les infos de la bourse. Top à Wall Street avec Didier Hameau de boursier.com, suivi de l'interview écho. Carrefour pourrait être racheté par un groupe canadien spécialisé dans les supérettes et les stations-service. Pour en parler, Emmanuel Duteil reçoit ce soir Olivier Dauvert, spécialiste de la grande distribution. A tout de suite sur Europe.
Europe Soir, le 22-22-30, Julien Pierce.
22h18 sur Europe 1, c'est l'heure de Top à Wall Street. Toutes les infos de la bourse avec Didier Hameau de boursier.com. Bonsoir Didier.
Bonsoir Julien.
Wall Street repart à la hausse avec l'aide d'un rebond des valeurs de technologie.
Oui, alors il y a encore peu d'animation à Wall Street, mais ça remonte un petit peu effectivement. Tout le monde attend l'annonce du plan de relance budgétaire demain, jeudi, qui sera présenté par Joe Biden lui-même. Un petit rebond donc en attendant avec un Nasdaq qui reprend 0,43%, 13 129 points. Le Dow Jones est quasiment stable, 31 060 points. Les valeurs de technologie qui avaient baissé avec l'affaire Trump sur Twitter se reprennent un petit peu. On a Intel qui remonte de 7% quand même, $56.95 après l'annonce d'un remaniement de sa direction. Twitter reprend 0,4%, Facebook plus 0,2%, c'est pas très spectaculaire, c'est assez calme. Apple plus 1,6%, $130.89, Microsoft est en hausse de 0,6%, Amazon plus 1,4%. Le pétrole revient en revanche en arrière à $53 le baril WTI, il était bien remonté ces derniers temps, on a une baisse ce soir de 0,8% sur le baril et l'euro recule encore 1,21,55 face au dollar.
La bourse de Paris a terminé en hausse dans le sillage du titre Carrefour qui a grimpé de 14%.
Oui, plus 0,2%, le CAC à 5 662 points. Le marché, effectivement, a été porté par Carrefour en hausse exactement de 13,4%. 17,54 € après avoir été approché par le Canadien Couche-Tard, donc, qui propose un cours de 20 € dans le cadre d'un rapprochement amical. Une opération qui n'est pas du goût du gouvernement, visiblement. Bruno Le Maire a évoqué un risque concernant la souveraineté alimentaire, donc ça devrait un petit peu calmer le marché. En attendant, le reste du secteur de la distribution a profité de l'effet d'entraînement avec Rally en hausse de 10% ce soir. Casino plus 4% à la clôture, 28,56 €.
Exception du jour, le secteur automobile a rechuté en clôture.
Oui, il était remonté, hein. Le secteur était un petit peu remonté ces dernières séances. Ça se tasse de nouveau. Valeo, moins 3%, l'équipementier a perdu pas mal de hauteur, 30,20€. Valeo a été déclassé par le broker Exan qui a révisé en baisse son objectif de cours à 30€ justement. Et puis Faurecia, moins 1% aussi, a perdu de la hauteur avec Plastic Omnium, moins 3%. Le tandem Renault et Peugeot recule. Renault repère 3%, 35,81€. Peugeot, moins 0,6% à 22,27€. Les autres places financières sont assez calmes, à l'image de la Bourse de Paris. Il n'y a pas eu beaucoup d'évolution. Le DAX à Francfort remonte de 0,1%. Madrid, plus 0,18%. Amsterdam, plus 0,12%. De petits écarts, donc. Et le CAC 40 en hausse de 0,21%. 5 662 points.
Merci beaucoup, Didier Hamaud de Boursier.com. Et à demain, Didier. 22h21 sur Europe 1, on passe à l'interview éco. Emmanuel Duteil, c'est à vous.
Bonsoir Olivier Dauvert.
Bonsoir.
Un grand merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes un grand spécialiste de la grande distribution et si nous avons voulu être en ligne avec vous ce soir, c'est pour parler de l'affaire du jour. Carrefour qui pourrait être racheté par un groupe canadien. Alors disons-le très clairement, ce groupe s'appelle Couche-Tard. Je pense que quasiment aucun de nos auditeurs connaissait jusqu'à ce matin l'existence de Couche-Tard. C'est pourtant un mastodonte de la grande distribution. Justement, on va peut-être commencer par le présenter, Olivier Dauvert. C'est pas du tout un spécialiste de la grande distribution comme on les connaît en France.
Non, il faut avoir traîné en Amérique du Nord et notamment au Canada pour les connaître. C'est ce qu'on appelle des dépanneurs, des magasins de proximité qui sont ouverts très tard le soir, parfois toute la nuit et très souvent d'ailleurs adossé à une station-service. Et la particularité de ce groupe-là, c'est qu'il réalise la majorité de son activité avec du carburant, qui représente très exactement 72% de son chiffre d'affaires, et surtout 40% de sa marge. Ça veut dire que c'est finalement plus un pétrolier qu'un distributeur. Mais il vient du magasin de proximité, le premier a ouvert en 1980, et voyez, 40 ans après, il pèse à peu près 50 milliards de chiffre d'affaires et il s'attaque à un mastodonte de la distribution qui, lui, était né 20 ans plus tôt.
Voilà, alors c'est un très grand groupe quand même, hein, 130 000 salariés, environ 15 000 magasins. Ils sont présents dans 25 pays, vous l'avez dit, aussi bien au niveau de la distribution alimentaire que du côté de l'essence. Ils sont sur le papier plus petits malgré tout que Carrefour, hein, puisque à titre de comparaison, Carrefour c'est 320 000 salariés présents dans une trentaine de pays, plus de chiffre d'affaires du côté de Carrefour que du côté de Couche-Tard. Mais voilà, et c'est ça aussi qui est impressionnant dans ce monde qui change, Carrefour ne vaut quasiment plus rien aujourd'hui.
C'est toute la différence entre la taille quand on l'exprime en chiffre d'affaires, où Carrefour fait un peu plus de 80 milliards d'euros de chiffre d'affaires, et puis ce qu'on appelle la rentabilité, la profitabilité. Et là, pour le coup, malheureusement pour Carrefour, Couche-Tard est peut-être plus petit que lui, mais il est plus rentable. Et donc, en bourse, la valeur de Couche-Tard aujourd'hui est à peu près trois fois la valeur qu'avait Carrefour avant la flambée d'aujourd'hui. Et ça, c'est la conséquence de la rentabilité et des difficultés, en gros, que Carrefour a traversé depuis déjà quelques années, qui est la conséquence d'être très exposé aux grandes surfaces, aux grands hyper, et notamment sur le marché français, qui est plus aussi dynamique qu'avant. Donc, en gros, Carrefour paye aujourd'hui des années pendant lesquelles il a manqué de croissance, d'agilité, et de fait, il est devenu plus faible, et il est surtout devenu une proie, alors que pendant longtemps, Carrefour a été vu et se voyait comme un prédateur.
C'est ça qui est impressionnant, hein. On ne l'a pas tous en tête, mais Carrefour a fait partie à un moment des plus grands distributeurs du monde. Là, si on devait fusionner les deux, ça créerait le cinquième groupe mondial de la distribution, donc ça ferait véritablement un mastodonte. Mais pourquoi, d'une certaine manière, Couche-Tard a du coup besoin de Carrefour, alors qu'ils ne font pas du tout, ou presque pas, le même métier, si je vous comprends bien, Olivier Dauvert?
Tout simplement parce que Couche-Tard est dans une forme d'impasse à moyen terme. Alors dans le quotidien, tout va bien, c'est un groupe qui est très rentable, je vous l'ai dit. Mais quand vous vendez, quand vous faites 70% de votre chiffre d'affaires sur les carburants, 40% de votre marge, comment vous pouvez vous projeter sereinement à 20 ans d'ici, alors qu'on voit bien que le monde est engagé dans une transition énergétique? Est-ce que vous pensez que dans 20 ans, le business du pétrole, des carburants, sera aussi florissant qu'aujourd'hui? Probablement pas. Donc Couche-Tard était dans une situation où soit il acceptait une forme de maturité durable, parce qu'on continuera à acheter du pétrole et il y a des tas de pays du monde dans lesquels la transition vers l'électrique, elle n'est pas prête de se faire, soit, et c'est l'option qu'ils ont prise, Couche-Tard disait, je dois faire pivoter mon activité et donc je dois en fait diluer, marginaliser la part que pèsent les carburants dans mon activité et donc je viens sur la distribution alimentaire, la distribution de produits de grande consommation.
Et c'est en cela où Carrefour est intéressant parce que Carrefour s'est considérablement réformé ces dernières années. Le patron s'appelle Alexandre Bompard, il a fait, et là je crois que tout le monde s'accorde là-dessus, un très gros travail pour au moins remettre sur les rails. On est encore loin d'en refaire un mastodonte, mais ça y est, c'est remis sur les rails.
En tous les cas, les fondements sont un peu plus sains qu'ils ne l'étaient il y a quelques années. Mais la bourse n'a pas suivi, la valeur de Carrefour est restée basse. Et donc, de fait, c'est en ce sens que c'est devenu une proie pour quelqu'un qui veut investir aujourd'hui dans la distribution alimentaire, dans les magasins physiques. Alors après, on peut discuter si c'est pertinent, mais pour celui qui voulait aujourd'hui investir dans les magasins physiques, évidemment que Carrefour était une jeune fille à marier, j'allais dire, parce que redevenue pimpante, alors que pendant des années, elle était un peu vieillissante.
Alors,
Donc ça, c'est le boulot de Bompard, pour le coup.
Voyons justement si ça peut fonctionner, puisque, on le dit, ils ne sont pas concurrents d'un point de vue géographique, ils seraient même très complémentaires, il n'y aurait donc pas de sociale, c'est ce que laissent entendre là, les deux parties depuis ce matin. Ils sont complémentaires sur les formats malgré tout, puisqu'on a d'un côté Carrefour avec de très grandes grandes surfaces et puis de l'autre, donc on a compris, principalement les dépanneurs de Couche-Tard. Est-ce que malgré tout, ça fait un groupe cohérent d'après vous, Olivier Dauvert?
Alors, il y a déjà une observation, il n'y aura pas de synergie opérationnelle entre les deux, parce que vous êtes d'un côté et de l'autre de l'Atlantique, sur des métiers très différents, mais il y a quand même deux interrogations qui restent aujourd'hui sur la table. La première interrogation, c'est est-ce que quand Couche-Tard dit qu'il veut garder Carrefour dans son périmètre actuel, est-ce qu'il est sincère? Parce qu'on pourrait très bien imaginer qu'en réalité, seuls les magasins de proximité de Carrefour l'intéressent, puisque c'est son métier, et que, de fait, il démantèlerait le reste du groupe. C'est une interrogation qu'on est en droit de se poser, parce que, pour le coup, Couche-Tard, il dit bien ce qu'on veut entendre, et notamment ce que les politiques français vont vouloir entendre. Et puis, la deuxième interrogation, c'est est-ce que les actionnaires de Couche-Tard, parce que lui, il ne fait pas non plus ce qu'il veut, est-ce que les actionnaires de Couche-Tard vont suivre le dirigeant, qui est le fondateur certes, mais qui malgré tout doit rendre des comptes, dans une acquisition où, en gros, il s'agit d'acheter des magasins dont on dit qu'ils sont matures, les hypermarchés, sur un marché qui est objectivement mature, puisque la France demeure toujours la principale activité de Carrefour. Je souhaite quand même bien du courage au patron de Couche-Tard d'aller vendre ça à ses actionnaires, acheter des hypermarchés en France. Il faut quand même y croire sérieusement pour être capable d'être entendu par ses actionnaires. Donc ça reste malgré tout une interrogation.
Eh bien, on va vérifier toutes ces interrogations. En tout cas, un grand merci, Olivier Dauvert. Je rappelle que vous êtes spécialiste de la grande distribution. Nous, on se retrouve demain, 22h20.
Merci beaucoup, Emmanuel Dutheil. Emmanuel, que l'on retrouvera également demain à 13h dans La France Bouge avec Elisabeth Assayag. Ils parleront rénovation énergétique avec Olivier Saleron, président de la Fédération française du bâtiment. Il est 22h28 et c'est donc l'heure des unes de la presse. Variant du Covid, les envahisseurs, titre Libération, britanniques, sud-africaines, japonaises ou encore brésiliennes, les nouvelles déclinaisons du virus, plus contagieuses et difficiles à détecter, inquiètent les chercheurs. La principale crainte, écrit Libé, que certaines résistent au vaccin. Contrôle, droits de douane, premier couac du Brexit, c'est le titre à la une des Échos. L'encre de l'accord du partenariat avec le Royaume-Uni est à peine séchée que déjà de premières perturbations apparaissent. Pénurie de produits frais dans les supermarchés. Marché nord-irlandais, découragement des pêcheurs écossais face aux formalités sanitaires. Depuis le 1er janvier, le Brexit est devenu une réalité plutôt douloureuse, écrit le quotidien économique. On termine avec La Croix qui consacre sa une de demain à un scandale d'État. L'Irlande en deuil de milliers d'enfants, titre le journal. Un rapport révèle qu'entre 1922 et 1998, 9000 bébés et enfants sont morts dans des maisons pour mères célibataires tenues par des religieuses et l'État. Et comme promis, on termine avec le foot et le trophée des champions direction Lens ou le Stade Bollaert. Le Stade Bollaert où on retrouve Julien Froment et le Paris Saint-Germain est en train de mener l'OM. J'en perds.
Oui, vous arrivez à un très bon moment, Julien, puisque toujours 1-0 pour Paris face à l'OM. But signé Icardi à la 39e après 70 minutes de jeu, donc 1-0 pour Paris. Et un excellent coup franc pour Neymar qui est rentré il y a quelques instants de cela, en lieu et place d'Andrel Di Maria, le Brésilien, donc après un mois d'absence et sa blessure face à Lyon, donc qui est de retour dans l'effectif parisien et qui là a peut-être l'opportunité de marquer le but du break. C'est parti, et finalement c'est dévié par une tête marseillaise, ce sera donc un corner en faveur du Paris Saint-Germain. Il y a eu des occasions pour les Marseillais dans cette seconde période avec Florian Thauvin, la belle parade de Keylor Navas sur une frappe croisée à la 53e, et puis Khaled Tchar, le défenseur central de l'OM, monté pareil aux avant-postes, demi-volée bien capté par le gardien du PSG. Globalement, hein, c'est Paris qui est devant au point et au score, mais l'Olympique de Marseille se réveille un petit peu dans cette seconde période. Il y a encore une vingtaine de minutes à jouer et donc encore 20 minutes d'espoir pour les Marseillais. 1-0 pour Paris face à l'OM, donc après 71 minutes de jeu.
Merci Julien Froment, en direct de Lens pour Europe 1. Bonsoir Olivier Delacroix.
Bonsoir Julien.
Comment allez-vous ?
Écoutez, ça va. Je suis très content, vous le savez, comme je supporte le Paris Saint-Germain, je trouve que c'est très bien. C'est une soirée qui commence bien et qui devrait bien se finir.
Et ce, jusqu'à 1h du matin avec la libre antenne qui débute donc maintenant, 39-21 pour vous appeler et témoigner.
Exactement. Et je vous dis à tout à l'heure pour le flash à 23h, Julien.